Je vous remercie de vos mots aimables. J'espère que je vais me faire entendre. J'espère aussi que je ne vais pas vous ennuyer et provoquer des départs ou des endormissements ou encore des consultations trop fréquentes du téléphone. Donc je vous parle ce soir de l'abbé Peyramale. Donc je ne vais pas raconter à nouveau l'histoire des apparitions que vous connaissez tous, ni non plus je ne vais pas faire un portrait, une biographie de Sainte Bernadette, mais je vais vous parler de l'abbé Peyramale, donc qui a été le curé de Lourdes au moment des apparitions. Et donc on va le voir, il a eu un rôle important à différents moments, au moment des apparitions bien sûr, et puis ensuite pour aider Bernadette à discerner sa vocation, et également un rôle dans le début de la construction des sanctuaires, qui aujourd'hui bien sûr n'ont plus aucun rapport avec ce que lui a édifié. Je veux dire par là qu'il y a eu moult évolutions, étapes et agrandissements. On n'entend pas très bien. Bon, je vais essayer de... Voilà, je vais essayer de parler plus près pour me faire comprendre. Donc l'abbé Peyramale est né en 1811 dans un village sur la route de Tarbes. Il est d'une famille de 10 enfants, son père était médecin, et donc ça veut dire que dans ce petit village qui avait à l'époque à peu près 500 habitants, le père, donc qui s'appelait Dominique Peyramale, était un notable, comme l'était le maire et le curé du village. Donc sur les 10 enfants, certains sont morts en bas âge, d'autres on a perdu la trace, et donc il y en a 3 qui, si on peut dire, sont passés à la postérité. C'est l'abbé Peyramale en tant que tel, un de ses frères qui était médecin et un autre qui était receveur des impôts. Et donc il a entretenu avec eux tout au long de sa vie une correspondance importante. À l'époque, le téléphone, etc., les mails, tout ça n'existait pas. Et donc on écrivait des lettres. Et ces lettres, on les connaît, on les a conservées en archives, dans des archives privées. Et donc elles permettent... en fait, de suivre à la fois la vie de l'abbé Peyramale et puis aussi le début des apparitions et la part que l'abbé Peyramale a prise aux différents sanctuaires qui vont se construire. Donc cet abbé Peyramale, dans un village où il n'y a ni école, ni même commerce d'ailleurs, reçoit sa première formation à la fois religieuse et on va dire scolaire par ses parents, par sa mère pour l'aspect religieux et la lecture, et puis par son père médecin pour le début de son éducation, on va dire, aux humanités. Il suit aussi des cours de latin avec le curé du village. Et puis, quand il a l'âge de 12 ans, son père l'envoie dans ce qu'on appelait le petit séminaire de Saint-Pé. Donc à l'époque, les petits séminaires, qu'on appelait aussi les collèges épiscopaux, servaient en fait, on va dire, de pépinière aux grands séminaires. C'est-à-dire que les élèves qui entraient dans ces petits séminaires faisaient des études classiques, mais aussi recevaient une formation religieuse et menaient une vie qui n'était pas une vie religieuse, mais une vie spirituelle déjà un peu développée. Et donc c'est justement dans ce petit séminaire que le futur abbé Peyramale, dès sa première année, donc dès la classe de 5e à 12 ans, a ressenti une vocation religieuse. Donc il va faire ses études au petit séminaire et ensuite, naturellement, il entre au grand séminaire qui prépare véritablement au sacerdoce, donc au grand séminaire de Tarbes. Et dans ce grand séminaire, il va notamment, dans les dernières années, avoir pour professeur et supérieur l'abbé Laurence, qui ensuite deviendra évêque de Tarbes. Et donc l'abbé Peyramale, en fait, connaissait son futur évêque avant d'être prêtre, et connaissait l'évêque qui va reconnaître les apparitions depuis longtemps. Donc une fois qu'il est ordonné prêtre, là on est en 1835, une fois qu'il est ordonné prêtre, il va suivre un cursus, on va dire, classique, en ce sens que il suit les étapes, des milliers de prêtres à cette époque, en France. Il est d'abord troisième vicaire, c'est-à-dire la quatrième roue du carrosse, si on peut dire. Donc il est troisième vicaire à Vic en Bigorre, Donc c'est un petit bourg, et là il fait le catéchisme, il est aussi aumônier de l'hospice de Vic, et puis il commence aussi à faire des sermons, et son premier sermon a été connu, enfin a été conservé même, c'est un sermon sur la charité. Alors pourquoi je souligne ce point? Parce que tout au long de sa vie, l'abbé Peyramale a été considéré comme un saint prêtre, bien sûr, mais un prêtre à la très grande charité. Et même dans son enfance, et là on a beaucoup d'histoires qui nous racontent des anecdotes à ce sujet, on va dire qu'il ignorait, enfin sa main droite, ignorait ce que donnait sa main gauche. C'est ce que disait un de ses frères. Hein. Donc il était très charitable, et même on peut dire parfois trop charitable. Hein. Pour ne donner qu'une anecdote, donc c'était quand il était encore enfant. Une fois, sa mère s'était acheté des sabots à la foire, des sabots neufs, voilà, pour les mettre quand les autres seraient vraiment terminés. Le jeune Marie-Dominique Peyramale, le lendemain, les a donnés à une pauvre dame qui était en guenilles, qui n'avait plus de chaussures, et donc sa mère n'était pas très contente, mais elle n'a pas été récupérée le cadeau qu'avait fait son fils. Hein. Donc c'est tout au long de sa vie, et on peut dire de sa carrière sacerdotale, et on dira deux, trois choses aussi à ce propos avec Bernadette, c'était un prêtre d'une grande charité. Une charité en acte, bien sûr, et pas simplement en parole. Donc il est vicaire à Vic en Bigorre. Ensuite, pendant quatre années, il est d'abord troisième vicaire, puis ensuite second vicaire, donc dans l'église Saint-Jean de Tarbes, donc en ville cette fois. Je ne vais pas développer ce qu'il a fait, mais il a fait quelques fondations intéressantes. Ensuite, en 1943, il est nommé cette fois curé d'Aubarède. Là aussi, on a quelques informations intéressantes sur ce qu'il fait et sur sa façon de conduire sa paroisse. On va dire qu'il y a deux traits qui le caractérisent. On va dire une certaine autorité. Et donc, à une époque où le travail du dimanche était tout à fait proscrit, à juste titre, par l'Église, parfois il faisait un peu la chasse à ceux des paysans qui allaient travailler le dimanche dans les champs. Il est aussi très attentif à enseigner la foi aux enfants, et donc très attentif à ce que chacun suive le catéchisme. Et puis en 1851, l'évêque, et donc c'est Mgr Laurence qui est devenu évêque en 1945, en 1851, Mgr Laurence le nomme aumônier de l'hospice de Tarbes. Donc c'est un hospice qui est important, il est à la fois un hospice civil et un hospice militaire, et donc dans cette fonction d'aumônier, l'abbé Peyramale s'occupe à la fois, si on peut dire, des malades et des personnes qui sont accueillies dans cet hôpital, et il s'occupe aussi des sœurs, c'est les sœurs, les filles de la charité, qui, on va dire, gèrent l'hôpital, donc une communauté de 10 religieuses. Donc c'est un hôpital, que j'ai dit, qui est important, il accueille à cette époque à peu près 200 personnes. Donc je dis un mot là-dessus parce que c'est significatif, on va dire, de l'apostolat et du ministère de l'abbé Peyramale. Donc on accueille dans cet hospice de Tarbes des malades civils, mais aussi des malades ou des blessés militaires. On accueille aussi ce qu'on appelait des vieillards indigents, c'est-à-dire des personnes âgées qui n'avaient plus les moyens de subsister, qui ne touchaient pas de retraite, évidemment, à cette époque. Mais cet hospice accueille aussi des déficients mentaux qui sont en attente de trouver un établissement plus spécialisé, et accueille aussi des orphelins, donc des jeunes gens ou même des adolescents orphelins qui reçoivent plus ou moins une formation professionnelle avant de s'engager dans la vie. Donc on a là un public très divers qui va familiariser l'abbé Peyramale avec tous les besoins multiples de la société, toutes les situations difficiles qui peuvent se présenter dans la vie des hommes, de leur enfance à leur âge le plus avancé. Donc lui, il est content de cette fonction, il est aumônier des sœurs, il s'entend bien avec les sœurs, qui lui donnent des confitures, le produit de leur jardin, etc. Et puis en 1854, l'abbé Laurence, Mgr Laurence, le nomme curé de Lourdes. Donc c'est une promotion, parce que Lourdes est une ville assez importante, on va le voir. Donc le premier réflexe de l'abbé Peyramale, c'est de refuser la fonction, parce qu'il se trouve bien où il est. Aumônier de l'hospice, ça lui convient tout à fait. Et curé d'une ville un peu importante, en développement, ça ne l'attire pas trop. Néanmoins, il va obéir, évidemment, et puis il va accepter cette nomination. Donc un point sur cette nomination, à l'époque, les curés de paroisse n'étaient nommés qu'avec l'accord du gouvernement. Donc il y avait une petite enquête qui était faite avant par les autorités préfectorales sur la personnalité, la moralité, les qualités de celui que l'évêque voulait nommer curé. Donc on a retrouvé les résultats de cette enquête, et l'abbé Peyramale est quelqu'un qui est bien considéré par cette enquête, par les personnes qui ont été interrogées pour cette enquête. On va dire qu'il a, pas de problème particulier à signaler dans ce dossier, ce qui n'est pas le cas de tous les dossiers de cette époque. Donc il est nommé par le gouvernement le 6 décembre 54 et nommé officiellement par l'évêque donc le 9 décembre 54. Et au milieu de ça, vous avez le 8 décembre 54, un événement très important dans l'histoire de l'Église. C'est le pape Pie IX qui proclame le dogme de l'Immaculée Conception. Et donc c'est, on va dire, un clin d'œil de la Providence de voir que le pape proclame le dogme de l'Immaculée Conception au moment même où l'abbé Peyramale est nommé curé à Lourdes, où, 4 ans plus tard, la Vierge va venir et finalement se révélera sous le titre de l'Immaculée Conception. C'est un point à signaler. Donc, je vous l'ai dit, Lourdes, pour l'abbé Peyramale, finalement, c'est une promotion, parce que Lourdes, c'est une ville qui est en plein développement à cette époque. Donc, elle a à peu près 4000 habitants. C'est un chef-lieu de canton. C'est une ville où il y a une centaine de commerces. Il y a plusieurs médecins, des chirurgiens, des pharmaciens. Il y a une garnison militaire, une garnison de gendarmerie, un tribunal avec un procureur impérial, qui posera d'ailleurs quelques problèmes à Bernadette, on verra. Et puis, c'est une ville aussi où il y a déjà, donc ce n'est pas nouveau, déjà beaucoup de, enfin, un certain nombre d'hôtels, de cafés, de cabarets. Il y a 2 hôtels et 7 auberges, plus 3 ou 4 cabarets. Et donc cet équipement qui est important pour une petite ville de 4000 habitants s'explique par le fait que Lourdes est une ville déjà de passage, en ce sens que les gens, venus de toute la France d'ailleurs, qui vont prendre les eaux thermales dans les stations environnantes de montagne, souvent s'arrêtent à Lourdes, à l'aller ou au retour. Donc c'est, on va dire, une sorte de carrefour Lourdes. Alors sur le plan religieux, il n'y a qu'une paroisse dédiée à Saint-Pierre, dont l'abbé Peyramale devient curé. Et puis il y a une communauté de sœurs, ce sont les sœurs de la Charité de Nevers, qui s'occupent de l'école pour filles et qui s'occupent aussi de l'hospice. Et puis il y a une communauté des frères, les frères des écoles chrétiennes, qui eux s'occupent de l'école pour garçons. Alors l'abbé Peyramale est secondé par 3 vicaires, parce que c'est une communauté importante, 4000 habitants. Donc 3 vicaires et certains, notamment l'abbé Promian, vont jouer un rôle important dans les premiers temps de l'apparition, on va le voir. Et puis, je ne l'ai pas dit peut-être, mais je vais vous le dire, l'abbé Peyramale est curé doyen, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de 14 autres prêtres des environs qui font partie du doyenné. Et donc, en tant que doyen, il est en quelque sorte l'intermédiaire entre ces curés et l'évêque. Il est aussi chargé, on va dire, de les surveiller, de les remettre dans le droit chemin si c'est nécessaire. Et il organise pour eux, mais dans tout le diocèse c'est pareil, il organise des conférences ecclésiastiques pour leur donner une sorte de formation continue. Et puis il a une autre responsabilité, il est chargé de veiller là aussi à la bonne formation des nouveaux prêtres. Donc, une fois qu'on est prêtre à cette époque, on est prêtre évidemment pour la vie, mais on estime qu'il faut parfaire sa formation. Et donc, à cette époque, dans le diocèse de Lourdes, mais dans beaucoup d'autres diocèses, les jeunes prêtres doivent continuer à étudier et subissent un examen tous les ans pendant 5 ans. Et donc, l'abbé Peyramale est chargé d'organiser, de veiller à ces examens des jeunes prêtres. Et donc, ça ne lui pose pas trop de problèmes. Un, parce que lui-même, même si ce n'est pas un grand théologien ou un intellectuel, est quand même, depuis qu'il est prêtre, un homme qui lit la théologie, les pères de l'Église, etc. On en a des témoignages très clairs. Et aussi parce que c'est un homme d'autorité, et donc il sait faire son travail de curé doyen. Alors, j'insiste sur cette fonction parce que elle aura un rôle, une incidence sur les premiers temps des apparitions, on va le voir. Donc, ces apparitions, vous le savez, commencent le 11 février 58. Donc, vous connaissez tous Bernadette, je ne vais pas insister sur sa personnalité. Je vais simplement citer quelque chose qu'elle a dit elle-même. Donc, ça résume tout à fait ce qu'elle était. Et ça montre à la fois sa modestie et son humilité. Donc, c'était parmi les interrogatoires qu'elle a subis de la part des autorités civiles dans les premiers temps. On lui a demandé de se présenter. Elle s'est présentée de cette façon. Bernadette Soubirous, bon, âgée de 13 ou 14 ans. Donc, elle n'était même pas sûre de sa date de naissance. Et voilà. Ne sachant ni lire ni écrire, ce qui est vrai, et n'ayant pas fait ma première communion. Donc, c'est une fille simple, mais qui est très sensée, avec la tête sur les épaules. Et donc, depuis quelques mois, justement, elle a enfin pris une scolarité normale, puisqu'elle est l'élève des Sœurs de la Charité de Nevers, dans le haut de la ville. Et elle a également commencé à suivre les cours de catéchisme pour faire sa première communion. Et donc, le 11 février, vous connaissez l'histoire, hein, elle est près du Gave avec une de ses sœurs et puis une amie. Elle ramasse du bois mort pour la maison. Et donc, elle voit différentes choses. Donc, le premier point très important, et elle l'a dit dès le départ et elle ne fera que le répéter, c'est qu'avant même de voir la Vierge, comme une préparation à cette vision de la Vierge, à deux reprises, elle a senti comme un coup de vent, c'est l'expression qu'elle emploie dans le patois bigourdan, elle a senti comme un coup de vent deux fois de suite, ensuite une lumière, elle a vu une lumière, et ensuite elle a vu ce qu'elle décrirait comme une dame habillée de blanc. Donc dès le départ, Bernadette ne dit pas « j'ai vu la Vierge ». Elle dit ce qu'elle voit, elle décrit précisément ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu, un coup de vent, une lumière, la Vierge. Mais elle ne s'aventure pas à dire j'ai vu la Vierge, il faut me croire j'ai vu la Vierge. Donc elle demande à ses camarades, enfin à sa sœur et à la personne à la jeune fille qui les accompagne de rien dire. Mais évidemment, le soir même, les parents de Bernadette sont au courant et les choses, on va dire, se passent pas très bien. En fait, c'est pas que les parents de Bernadette ne la croient pas du tout. Ils savent pas trop ce que c'est. De toute façon, elle ne dit pas qu'elle a vu la Vierge, elle a dit qu'elle a vu une dame. Mais surtout, ils redoutent que cela leur cause des ennuis. Donc, ils préféreraient que tout ça se tasse et qu'on n'en parle plus. Le 13 février, donc c'est 2 jours après la première apparition, c'est un samedi. Et comme tous les samedis, Bernadette Soubirous va se confesser à l'abbé Paumian, hein, qui est le prêtre qui lui fait le catéchisme. Et donc, aussitôt qu'elle commence sa confession, elle lui dit « j'ai vu quelque chose de blanc dans la grotte près du Gave, hein, qui avait la forme d'une dame. » Donc l'abbé Paumian, qui la connaît depuis quelques mois maintenant, s'interroge et lui demande de raconter en détail ce qu'elle a vu. Et plus tard, il dira que ce qui l'a surtout frappé, c'est la mention du coup de vent qui a précédé l'apparition proprement dite. Lui, ça lui a fait penser de suite au coup de vent dont parlent les Actes des Apôtres au moment de la Pentecôte. Hein, vous vous souvenez tous de cette scène où la Vierge Marie et les apôtres sont réunis au Cénacle, comme on dit, et donc avant la langue de feu, avant la descente de l'Esprit Saint, il y a eu un coup de vent. et pour l'abbé Paumian, la similitude des choses, enfin des expressions plutôt, est frappante, en ce sens que ben, il se demande comment, si vraiment Bernadette avait voulu copier les actes des apôtres, ce que disent les actes des apôtres, comment elle aurait pu inventer ça, puisqu'elle ne connaissait pas, elle ne savait pas lire. Il est frappé par l'assurance de la jeune fille, qui très tranquillement hein, lui raconte ça. Donc elle n'est pas excitée, convaincue d'avoir une apparition, elle dit ce qu'elle a vu. Elle n'est pas agitée, enfin voilà, il est frappé à la fois de ce qu'elle soit sûre d'elle et en même temps qu'elle soit très calme. Donc il ne dit pas son opinion, mais il lui demande s'il peut en parler à l'abbé Peyramale. Et donc Bernadette, bien sûr, l'autorise à parler à l'abbé Peyramale de ce qu'elle a vu. Donc le soir même, l'abbé Paumian en parle à l'abbé Peyramale. Donc plus tard, l'abbé Paumian dira que l'abbé Peyramale n'a pas trop réagi, est resté plutôt indifférent. Et il a dit, ben, il faut attendre. C'est-à-dire, il faut attendre ben, s'il y aura d'autres manifestations, de quoi il s'agit, etc. Mais l'abbé Peyramale lui-même dira que, même si à l'époque il n'est pas encore évidemment convaincu que c'est la Vierge, il dira qu'il a quand même été lui aussi frappé par l'expression coup de vent, par le fait que ce phénomène ait précédé l'apparition proprement dite. Donc la deuxième apparition se passe le 14 février, hein, c'est un dimanche. La Vierge n'avait pas parlé lors de la première et ne parle pas non plus lors de la deuxième apparition. Elle reste silencieuse. Et donc on peut considérer que bah, ce silence est pour, en quelque sorte, acclimater, préparer Sainte Bernadette à recevoir les messages qu'elle va recevoir. La Vierge à Lourdes, mais ailleurs ça peut se passer différemment, mais à Lourdes, on va dire, a été progressive, a été pédagogique dans son apparition et dans ses messages. Elle n'a pas dit de suite ce qu'elle devait dire. Mais en revanche, voilà, elle ne dit rien, mais elle sourit, et donc elle sourit pour bah, montrer sa bienveillance et, si on peut dire, rassurer Bernadette. Troisième apparition, donc le 18 février, et là, pour la première fois, la Vierge parle. Donc vous savez, elle a toujours parlé à Bernadette, non pas en français, langue que Bernadette connaissait, mais maîtrisait peut-être mal, mais elle lui a parlé en patois bigourdant, dans le langage que Bernadette, dont Bernadette était familière. Et donc, dans ce premier message, elle demande, bon, la Vierge demande, elle ne dit pas « viens ici tous les 15 jours », elle demande si elle accepte de, voilà, de bien vouloir venir pendant 15 jours. Donc, trois autres apparitions se suivent, 19, 20, 21 février, des apparitions sans message, mais où la Vierge sourit. Et bon, je ne l'ai pas signalé, mais vous le savez, hein, dès la première apparition, Bernadette disait le chapelet, et si on peut dire, la Vierge Marie ne disait pas le chapelet avec elle. On voit mal la Vierge Marie dire « Je vous salue Marie ». Mais la Vierge Marie accompagnait Bernadette dans sa prière, notamment par un chapelet bah, qui est décrit dans l'apparition dès le premier jour. Donc évidemment, les apparitions ont commencé à se répandre, et donc là, dans les premiers jours où on est, 4-5e jour, à chaque fois, il y a une centaine de personnes présentes. Hein. Donc ça devient un phénomène non plus personnel, mais un phénomène qui va commencer à concerner toute la population. Le 21 février, Bernadette, donc après l'apparition, est interrogée par l'autre vicaire de l'abbé Peyramale, l'abbé Penn. On peut penser que c'est l'abbé Peyramale qui lui a dit bah, va un peu questionner Bernadette, là, qui continue à avoir soi-disant des visions. Lui aussi est frappé par la simplicité, la modestie de Bernadette. Et puis ce jour-là aussi, pour la première fois, Bernadette est interrogée par le commissaire de police, qui s'appelait Jacomet. Donc elle est convoquée et elle est questionnée assez durement hein, par ce commissaire de police, parce qu'il voit bien qu'il peut y avoir un trouble à l'ordre public, comme on disait à l'époque déjà. Et donc il essaye de la faire se contredire, il est assez sévère avec lui, et il la menace de l'envoyer en prison si elle retourne dans la grotte. Bon, il y aura d'autres menaces de ce genre, on en reparlera, mais il y aurait eu de quoi effrayer Bernadette. Pour résumer, aller vite, on peut dire qu'elle n'a pas du tout été effrayée. Septième apparition, apparition sans message aussi, avec néanmoins une apparition qui dure assez longtemps. Un témoin dira, enfin un témoin qui était là depuis plusieurs jours, hein, dira que ça a duré presque 1 heure. Il parlera d'une extase d'une heure. Et on pense, mais là c'est difficile à déterminer et on ne saura sans doute jamais, on pense que c'est peut-être dans cette apparition-là, peut-être dans cette apparition-là, peut-être dans cette apparition-là, que 3 secrets ont été révélés à Bernadette. Bon, je passe sur les apparitions qui se suivent parce que le temps passe. Je signale simplement, et ça c'est très important, le 25 février, donc on est à la 9e apparition, le 25 février, c'est la découverte de la source sur les indications de la Vierge, donc dans le sol de la grotte, une source, enfin voilà, un point d'eau est mis à jour, découvert par Bernadette sur les indications précises que lui donne la Vierge. Et donc c'est important puisque ça va, si on peut dire, caractériser Lourdes comme lieu d'apparition où on peut demander par l'intercession de la Vierge la guérison, et ça dès le départ. Et donc dès le lendemain de cette découverte de la source, on a une première guérison. Donc j'y insiste pas, mais c'est celle d'un ouvrier, Louis Bourriotte, qui travaillait dans une carrière et qui avait eu un éclat de pierre dans l'œil. Les médecins n'avaient pas pu sauver l'œil. Et donc, en prenant de l'eau et en l'appliquant sur son œil, il avait été guéri. Et donc, c'est suite à cette guérison que, si on peut dire, les premiers travaux d'aménagement de la grotte vont être faits. Et le jour même de la guérison de Louis, c'est-à-dire le lendemain de la découverte de la source. Donc, avec quelques camarades ouvriers des carrières, ils vont commencer à aménager un peu le chemin qui mène à la grotte pour que ce soit plus facile pour y accéder. Et ils vont aussi commencer à aménager la source, entre guillemets. Donc ils vont la canaliser par des bouts de bois, ils vont créer une sorte de petit bassin pour que les gens puissent venir chercher de l'eau. Et donc c'est le début de ce que vous connaissez et qui ensuite deviendra les piscines. Hein. Et donc les guérisons sont un des aspects importants de l'eau. Les guérisons sont un des aspects importants, sont un des aspects importants des apparitions de Lourdes dès le départ. On en reparlera. Donc le 2 mars, date très importante, le 2 mars, 13e apparition. Avec une foule importante qui est sur les lieux, plus de 1 500 personnes. Et donc, cette fois, la Vierge délivre un message direct que Bernadette doit transmettre. Donc, elle lui demande d'aller dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on bâtisse une chapelle. Donc, 2 demandes. Et donc Bernadette ne sait pas trop à qui s'adresser. La Vierge a dit au prêtre de qui il s'agit. Donc elle va voir son confesseur, qui est le prêtre qu'elle connaît le mieux, l'abbé Paumian. Et l'abbé Paumian reçoit le message, mais lui dit là il faut en parler à l'abbé Peyramale, il faut en parler au curé. C'est pas moi qui peux décider de ça. Donc Bernadette va aller voir l'abbé Peyramale le jour même. Elle ne l'a jamais rencontré, c'est-à-dire elle l'a déjà vu bien sûr à la messe, à l'église paroissiale, mais elle n'a jamais eu de rapport direct avec lui. Elle connaît l'abbé Paumian qui lui fait le catéchisme, qui l'écoute en confession, mais elle n'a jamais parlé à l'abbé Peyramale et elle se méfie un peu de ses réactions. Elle sait qu'il est assez autoritaire, donc elle se fait accompagner par une de ses tantes et par une autre personne. Et donc cette première rencontre entre Peyramale et Bernadette, on va dire, se passe assez mal du côté de l'abbé Peyramale. Donc il l'aborde assez abruptement en lui disant: Alors, tu vois la Vierge? Alors dans sa grande simplicité, elle dit: J'ai jamais dit que c'était la Vierge. Je vois une dame, mais j'ai jamais dit que c'était la Vierge. Et donc il lui dit: Bah alors, si c'est pas la Vierge, c'est qui cette dame? Et elle répond: Bah, je ne sais pas. Donc, à deux reprises, il va la traiter de menteuse. Donc, il met en doute ce qu'elle dit. Et puis, par rapport à la demande qu'elle lui fait d'organiser une procession, il répond que bah, c'est pas à lui à décider d'organiser des processions, c'est l'évêque qui peut décider de ça. Donc, l'entretien s'est pas très bien passé, on va dire. Par la suite, Bernadette se rend compte qu'elle a oublié la deuxième demande, qui est la construction d'une chapelle. Et donc, elle retourne voir l'abbé Peyramale. Donc, deuxième rencontre. Et là, pareillement, l'abbé Peyramale lui fait pas un très bon accueil. Il lui dit: Bah alors, cette dame-là qui veut qu'on construise une chapelle, qui c'est? Et donc, il dit à Bernadette: Eh ben, si tu veux qu'on commence à envisager une procession, une chapelle, faudrait déjà qu'elle dise son nom. Donc, demande-lui son nom et ensuite, viens me le dire. Donc, Bernadette, bien sûr, va insister auprès de la Vierge pour obtenir, on va dire, la révélation de son identité. Donc, à cette époque, l'abbé Peyramale est partagé entre plusieurs sentiments. Soit c'est une illusion, et donc, en tant que prêtre, il ne peut pas encourager une illusion. Soit si il y croit trop vite, on va l'accuser d'être imprudent. Et puis, il sait bien que de toute façon, c'est à l'évêque du diocèse de décider si une apparition est authentique ou pas. Et il le fait à cette époque, après avoir fait une enquête, organisé une commission. Donc, d'autres apparitions ont lieu. À chaque fois, j'insiste pas sur le détail hein, de chaque apparition, mais à chaque fois, Bernadette demande à la Vierge de son nom, puisque c'est ce que veut le curé Peyramale. Et à chaque fois, la Vierge ne répond pas, mais sourit. Donc le sourire de la Vierge, c'est important, évidemment, à Lourdes. Et on arrive ici à la fin des 15 jours, le 4 mars, où la Vierge n'a toujours pas révélé son nom, et donc et où les apparitions, finalement, on ne sait pas si elles vont continuer ou pas, puisque les 15 jours que la Sainte Vierge avait demandé sont terminés. Donc Bernadette ne va plus retourner à la grotte dans les jours suivants, et l'abbé Peyramale, lui, ne sait pas trop quoi penser, puisque ce qu'il a demandé à la Vierge, il n'a pas eu de réponse. Néanmoins, pendant cette période, le culte, si on peut parler ainsi, commence à s'organiser dans la grotte. C'est-à-dire et ça, c'est à l'initiative des fidèles, hein, c'est pas l'initiative du clergé, puisque l'abbé Peyramale a interdit à tous ses prêtres, donc je veux dire les prêtres de Lourdes, mais aussi les prêtres du doyenné, donc il leur a interdit de venir à la grotte tant que l'apparition n'a pas été reconnue. Donc il ne veut pas que le clergé encourage ce qui serait peut-être une fausse apparition. Donc, à l'initiative des fidèles, la grotte va devenir progressivement un lieu de culte, au sens où on amène une statue de la Vierge en plâtre, en permanence des cierges brûlent, on amène des images, et puis on commence aussi à ramasser de l'argent, des offrandes pour la construction de la future chapelle. Donc, dans cette grotte de Lourdes, dans cette période, on a une sorte de caisse où les gens déposent de l'argent. Et en attendant que la chapelle puisse commencer à être construite. Donc, bien sûr, l'abbé Peyramale a informé l'évêque des événements qui se déroulaient. Soit il l'informe par des courriers dont on connaît certains, soit par des visites qu'il lui rend à Tarbes. Arrive le 25 mars, donc fête de l'Annonciation. Et donc ce jour-là, Bernadette dira qu'elle s'est sentie attirée par la grotte. Donc c'est la première fois que ça lui est arrivé depuis la fin de la quinzaine. Donc c'est dans la nuit qu'elle se sent attirée à la grotte, et donc elle y va, et elle y est à 5 h du matin. Donc 25 mars à 5 h du matin, et évidemment c'est la nuit noire. Hein. Donc l'apparition va durer à peu près 1 heure, Donc, comme d'habitude, je dirais Sainte Bernadette dit le chapelet, accompagnée de la Vierge. La Vierge, à nouveau, demande la construction d'une chapelle. Et donc, à nouveau, Bernadette demande à la Vierge de révéler son nom. Donc, trois fois de suite, elle le demande. Trois fois de suite, la Vierge lui répond en souriant. Et puis, Bernadette qui insiste, parce que c'est une fille déterminée. La quatrième fois, la Vierge répond, ben, vous connaissez tous hein, la formule, hein, elle répond en patois bigourdant, elle répond, je suis l'Immaculée Conception. Bon, Bernadette ne sait pas ce que ça veut dire. Elle sait à peine que le dogme a été proclamé 4 ans auparavant. Bon, il y a bien une fête de l'Immaculée Conception qui est célébrée à la paroisse de Lourdes chaque année depuis 3 ans, mais le prêtre parle de l'Immaculée Conception, mais il n'emploie pas le terme en patois bigourdant, il n'explique pas ce que c'est. Et donc Bernadette, elle, a retenu l'expression, et donc elle se dépêche, elle est heureuse, elle se dépêche d'aller voir l'abbé Peyramale pour lui dire « ça y est, elle m'a donné son nom ». Et donc quand elle dit cette formule à l'abbé Peyramale, lui, il est stupéfait, en ce sens que, lui, évidemment, il capte de suite de quoi il s'agit. Mais il se dit, mais pourquoi elle a dit ça? Parce que ce n'est pas un nom, l'Immaculée Conception, c'est un titre, c'est un dogme. Et donc, il est à la fois stupéfait, mais en même temps bouleversé, parce qu'il se rend bien compte que Bernadette n'a pas pu inventer cette expression et ce nom. Et donc, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il a été convaincu qu'il s'agissait d'une manifestation surnaturelle, qu'il s'agissait bien de la Vierge et non pas d'une tromperie, d'une illusion ou de quelque autre phénomène. Et donc le soir même, il fait un rapport à l'évêque de Lourdes, à l'évêque de Tarbes, pardon, en lui disant, ben voilà, elle a enfin révélé son nom, l'expression est curieuse, mais enfin, je vous laisse juger. Et donc dès lors, l'abbé Peyramale va se faire, si on peut dire, le défenseur de Bernadette auprès des autorités civiles, qui lui cause différents problèmes, et aussi va servir d'intermédiaire entre Bernadette et l'évêque de Tarbes. Je dois aussi signaler qu'à partir de cette époque, il est confronté à un autre problème. Bon, je ne vais pas insister longuement là-dessus parce que le temps avance, mais il est confronté à une épidémie de fausses visions, de fausses apparitions. En quelques mois, on en a une quarantaine. C'est-à-dire des enfants, des garçons, des filles, des jeunes gens, des femmes, des hommes, qui sont persuadés de voir la Vierge. Et donc qui, parfois, vont attirer aussi les fidèles en se disant « lui aussi ou elle aussi, il voit la Vierge ». Bon, je ne vais pas détailler, mais il y a différentes explications qui peuvent être données à ces fausses apparitions. Hein. Soit c'est des gens qui croient voir quelque chose alors que c'est qu'un phénomène lumineux, ou des gens qui cherchent à imiter Sainte Bernadette, ou encore le diable qui s'amuse à, on va dire, créer des tourments dans cette histoire sainte. On a aussi à cette époque le début de ce qui est devenu un phénomène majeur de Lourdes, les processions. Et donc les premières processions partent de la paroisse, donc la paroisse Saint-Pierre, hein, qui est située dans la Haute-Ville. Première procession le 7 mai, et donc elles sont, on va dire qu'elles ne sont pas autorisées par Monsieur Peyramale, mais il les laisse s'organiser. Bon, ça posera des problèmes par la suite, mais on en reparlera peut-être. Le 8 juin, le préfet de Lourdes, le préfet de Tarbes, pardon, devant à la fois l'épidémie des fausses apparitions et puis le nombre grandissant des gens qui viennent à la grotte, même s'il n'y a plus d'apparitions à cette époque, fait fermer la grotte donc avec une palissade, interdire l'entrée de la grotte, et donc les gens qui s'approcheraient de trop près, même s'ils n'essayent pas de franchir la palissade, reçoivent une contravention, une amende. Donc c'est un point à signaler important parce que la dernière apparition a lieu le 16 juillet 58. Hein, c'est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et Bernadette ne va pas pouvoir entrer dans la grotte, bien sûr, puisqu'il y a la palissade. Donc elle est de l'autre côté du gave, comme la première fois, si on peut dire, et elle va voir la Vierge, malgré les obstacles matériels qu'il y a devant. Donc, dans cette ultime apparition, la Vierge reste silencieuse, ne délivre pas de nouveaux messages. Et donc, quand à la fin de cette ultime apparition, on lui demandera « Est-ce qu'elle a dit quelque chose ?» Elle a dit « Non, mais je ne l'ai jamais vue aussi lumineuse qu'aujourd'hui. » Ceci dit, Bernadette ne savait pas que c'était la dernière fois, et personne ne savait que c'était la dernière apparition. Donc, on peut dire qu'à partir de ce jour, la mission de Bernadette est terminée. En revanche, la mission de l'abbé Peyramale commence, puisqu'il va avoir un rôle important de différentes manières. Et donc là, je vois qu'il faut que je me dépêche de finir. Donc, d'une part, pour organiser ce qui va être les pèlerinages, pour également faire en sorte que les apparitions soient reconnues. Donc, il insiste auprès de l'abbé de Monseigneur Laurence pour qu'une commission d'enquête soit créée. D'autres évêques qui viennent dans la région prendre les eaux thermales, eux aussi cherchent à rencontrer Bernadette. Ils rencontrent aussi l'abbé Peyramale et aussi vont insister auprès de Monseigneur Laurence pour qu'il ouvre une enquête pour établir la véracité des faits. Donc, Monseigneur Laurence va s'y décider au mois de juillet. Et donc, il crée une commission. J'insiste pas sur la composition de cette commission, mais il y a plusieurs chanoines, plusieurs professeurs de séminaires et supérieurs de séminaires, et il y a l'abbé Peyramale dans cette commission. Donc, cette commission a un quadruple travail. Alors, je les cite dans l'ordre, parce que c'est important pour bien comprendre ce qui est en jeu à cette époque. Donc, la première mission de cette commission, c'est d'enquêter sur les guérisons, qui sont nombreuses, qui continuent. Donc, savoir si c'est des guérisons surnaturelles, définitives, ou si c'est des guérisons, on va dire, qui pourraient s'expliquer par des causes naturelles. Donc, un, les guérisons. Deux, les apparitions. Est-ce que c'est bien la Vierge qui est apparue? Comment? Combien de fois? Troisièmement, les messages. Et quatrième point d'interrogation, la source. Comment est-elle apparue? Est-ce qu'elle aurait pu exister avant, sans l'apparition, etc., etc. Donc, cette commission va se réunir et travailler pendant plusieurs années, de 58 à 1860. Elle va enquêter à Tarbes, à Lourdes et dans les diocèses environnants. Et donc, l'abbé Peyramale fait ce travail avec sérieux avec les autres membres de la commission. Et puis, finalement, Monseigneur Laurence, au vu du travail de la commission, va rendre une sentence à travers un amendement qui proclame d'une part l'authenticité des apparitions, qui d'autre part affirme qu'un certain nombre de guérisons, pas toutes, mais un certain nombre de guérisons qui sont produites sont d'origine miraculeuse, donc sont dues à l'intercession de la Vierge Marie. Troisièmement, il autorise qu'un culte soit rendu à la Vierge Marie sous le vocable Notre-Dame de Lourdes, donc la spécificité du lieu d'apparition. Et enfin, quatrièmement, il commence à faire appel aux fidèles, officiellement, pour des offrandes, pour la construction de la chapelle. Micro. Oui, micro. Bon, je suis désolé, mais voilà. Donc, j'essaye de terminer en étant audible. Donc, l'abbé Peyramale va seconder Monseigneur Laurence dans sa construction à la fois de la crypte, dans sa construction à la fois de la crypte, et de la chapelle située au-dessus de la crypte. En ce sens que, bien sûr, le responsable final des travaux, c'est Monseigneur Laurence. Il va choisir un architecte, il va choisir un chef des travaux, mais c'est l'abbé Peyramale qui va superviser d'une part, l'achat de la grotte et des terrains environnants, les premiers aménagements de la grotte, la construction de la crypte et de la chapelle, qui est devenue aujourd'hui la basilique de l'Immaculée Conception. Donc, l'abbé Peyramale a un rôle important dans la construction, on va dire, du premier sanctuaire. Il a aussi un rôle important dans l'organisation des pèlerinages. qui vont se faire progressivement, des pèlerinages qui vont venir des villages environnants de Lourdes, et puis aussi finalement de toute la France, notamment lorsque le chemin de fer va arriver à Lourdes, ce qui va permettre l'arrivée de nombreux trains de pèlerins, de plus en plus nombreux. Donc la chapelle se construit progressivement, avec aussi un signalé très important, la réalisation d'une statue représentant la Vierge dans son apparition. Et donc cette statue va être réalisée par un sculpteur lyonnais, Fabiche, qui avait déjà réalisé la statue de Notre-Dame de Fourvière. Et donc ce sculpteur va, on va dire, travailler d'après les indications de Bernadette et aussi sous la vigilance de l'abbé Peyramale. Et donc cette statue sera installée en 1864, dans la grotte, donc dans la niche des apparitions. Bon, il faut que j'achève mon propos. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être rapide en 5 minutes. D'une part, pour dire que l'abbé Peyramale a accompagné Bernadette, on va dire, dans sa vocation. Bernadette a senti une vocation religieuse quelques jours après l'apparition du 25 mars, où la Vierge s'est présentée comme l'Immaculée Conception. Donc, à partir de ces jours-là, elle a ressenti en elle un appel à la vocation religieuse, mais elle ne savait pas trop quelle congrégation choisir. Et donc là, différentes options vont se présenter. Elle a d'abord songé à entrer au Carmel, mais l'abbé Peyramale lui a fait comprendre que, vu sa santé fragile et vu la règle d'austérité, de grande régularité du Carmel, ça serait peut-être difficile. Ensuite, elle a songé à entrer chez les Bernardines, donc c'est une congrégation religieuse près de Bayonne, assez sévère également, fondée par l'abbé Sestac, donc à cette époque-là. Et là, c'est l'abbé Sestac qui a refusé de recevoir Bernadette parce qu'il estimait que ça allait perturber la congrégation naissante et la vocation particulière des Bernardines, qui est une vocation de solitude dans les sables de la région et de silence absolu. On a aussi les filles de la charité de Tarbes, dont l'abbé Peyramale avait été les aumôniers, qui ont essayé d'attirer à elle Bernadette, mais finalement elle se décidera pour les sœurs de la charité de Nevers, donc les sœurs de l'hospice et de l'école de Tarbes, de Lourdes, pardon, et elle le fera sur l'incitation pressante de l'évêque de Nevers qui était venu la visiter. Je termine en disant que, au fur et à mesure que Lourdes se développe, que les premiers lieux de culte sont inaugurés et installés, Monseigneur Laurence a jugé nécessaire de faire venir des chapelains pour s'occuper du sanctuaire qui naissait et qui allait se développer. Donc il a fait appel au père de Garaison, donc une congrégation religieuse qui s'occupait déjà du sanctuaire de Notre-Dame de Garaison dans les Pyrénées. Et donc ils se sont installés à Lourdes dans les jours où la crypte a été bénie et inaugurée. Et donc à partir de ce moment-là, bien sûr, l'abbé Peyramale, on va dire, n'a pas été mis à l'écart, mais leur a cédé la place. Et donc n'a plus eu de responsabilité directe dans le développement de Lourdes. En revanche, lui va s'attacher à construire une église dans la haute ville, donc pour remplacer l'église paroissiale où il était arrivé en 54, et qui était une église trop petite à l'époque et en mauvais état. Donc il va obtenir l'accord du gouvernement, l'accord de la commune, l'accord de l'évêque pour construire cette église qu'il va vouloir dédier au Sacré-Cœur. Mais bien sûr, ça va poser quelques frictions avec les pères de Garaison qui, eux, construisent la chapelle qui deviendra la basilique de l'Immaculée Conception et ensuite vont construire une autre basilique, la basilique du Rosaire, que vous connaissez bien. Donc l'abbé Peyramale va avoir des difficultés à achever l'église qu'il voulait construire, et finalement, avant même qu'il meure, les travaux devront être interrompus et ne pourront reprendre que plusieurs années après sa mort, par manque de fonds. Bon, ceci dit, l'abbé Peyramale est bien sûr une figure importante dans l'histoire de Lourdes par toute l'aide qu'il a apportée à la fois à Bernadette, à l'évêque et au développement des sanctuaires. Et je vais terminer cette conférence, d'une part en m'excusant pour la qualité technique, mais du micro, et deuxièmement en remerciant l'abbé Duhard qui a été curé de Lourdes jusqu'à il y a quelques années, et qui m'a demandé d'écrire cette biographie, parce qu'il voulait que la mémoire de celui qui avait fondé l'église du Sacré-Cœur, donc la mémoire de son lointain prédécesseur, ne tombe pas dans l'oubli, parce qu'on peut dire que dans cette histoire extraordinaire de Lourdes, bien sûr, l'abbé Peyramale a été un serviteur à la fois de l'église et de la Vierge Marie.
Il n'y aura pas de questions, ils vont râler.